Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Les petits déjeuners présidentiels.
Avec Yves Calvi et François Fillon.
7h44, Elisabeth Martichoux, c'est à vous.
François Fillon, bonjour. On va poursuivre sur les conditions d'alternance. On a un entretien d'un quart d'heure. Mais permettez-moi d'abord de revenir sur quelques questions que se posent les Français. Votre épouse Pénélope a été interrogée pendant 12 heures mardi et mise en examen pour 3 motifs. Vous dénoncez toujours un acharnement ?
Je vous ai dit que je ne répondrai pas à ces questions et j'espère simplement que lorsque la justice, ce qui viendra, me rendra raison et comme ça a été le cas dans un nombre incalculable de responsables politiques mis en cause ces dernières années, vous utiliserez autant d'énergie et vous mettrez autant de temps à vous faire l'écho de des jugements.
Certainement, mais il y a des poursuites judiciaires aujourd'hui. Et vous-même, François Fillon, avez mis sur la table l'existence d'un cabinet noir à l'œuvre contre vous.
Non, c'est pas moi, ce sont des journalistes qui ont écrit un livre.
Vous avez relayé cette information en la reprenant à votre compte et en accusant nommément François Hollande. C'était il y a une semaine.
Non, c'est le livre, madame, qui accuse nommément François Hollande. Écoutez, le Canard Enchaîné publie une information me concernant. 2 heures après la sortie du Canard Enchaîné, le parquet financier se saisit. Des journalistes écrivent, et je vous rappelle qu'il s'agit d'une affaire qui concerne l'emploi de mon épouse comme attachée parlementaire, c'est-à-dire un sujet qui concerne des centaines de parlementaires. Des journalistes écrivent un livre en expliquant que le président de la République se fait remonter le résultat des coûts judiciaires. Qui a tout un réseau qui a été mis en place pour traiter les affaires judiciaires au niveau du pouvoir. Et personne ne se saisit.
Mais vous dites
ça
que
vous choque pas du tout.
Alors d'abord ça concerne
pas. C'est juste l'état de droit qui est en cause. C'est juste la démocratie qui est en cause. Et ça ne suscite pas la moindre interrogation de la part de la presse qui est si prompte à se mobiliser pour défendre la justice, l'état de droit, la démocratie.
Si vous permettez, François Fillon, par souci de rigueur, simplement, c'est vrai qu'il y a une centaine de parlementaires qui emploient un conjoint, un proche, mais dans ce cas d'espèce, il s'agit d'un soupçon d'emploi fictif.
Mais la démonstration, madame, a été faite que cette accusation était fausse.
L'accusation du caractère fictif de l'emploi.
Bien sûr, il y a un nombre de témoignages considérables.
Vous avez apporté les preuves qui permettront aux juges
des preuves matérielles, des preuves, des témoignages. Et je vous le dis comme ça, les yeux dans les yeux, ici, jamais les juges ne pourront démontrer que l'emploi de mon épouse était fictif.
Donc
jamais.
Votre femme, au cours de ces 12 heures d'audition, mardi, a effectivement apporté toutes les preuves qui permettront d'effacer ce soupçon-là, vous
bien
le dites
sûr.
Ce matin. La violence de la charge, je reviens là sur le cabinet noir, a quand même un surpris jusque dans votre entourage. Encore une fois, vous dites ce matin que vous n'êtes pas allé trop loin en citant nommément François Hollande. Gérard Larcher a pris des distances. Laurent Wauquiez a dit hier, chez des confrères, vous en avez trop parlé on a trop parlé du complot. Est-ce que vous en avez trop parlé ? Est-ce que vous ne regrettez pas d'être allé trop loin ?
Mais ce que je regrette, c'est que vous ne vous saisissiez pas de cette question qui est fondamentale pour les libertés publiques. La question de savoir si ma femme a travaillé pour moi ou pas, c'est une question qui est très intéressante, mais qui ne met pas en cause les libertés publiques. La question de savoir si un candidat à l'élection présidentielle, si un candidat à la présidentielle, en ce moment même, madame, alors que je vous parle, est sous écoute judiciaire, et si monsieur Hollande a accès
vous
aux écoutes
que vous
judiciaires
êtes
d'un
écoute.
Candidat,
vous dites que vous êtes
c'est très possible.
C'est
très
probable.
Possible. Et donc, je demande que la justice enquête sur les allégations de 3 journalistes qui ont affirmé ça et qui à ma connaissance, ne sont pas mes amis.
Voilà, qui disent qu'il n'y a pas de cabinet noir, mais qu'on ne peut pas prouver non plus le contraire. Voilà, c'est ce qu'ils vous ont répondu. Bon. Il y a 6 élus.
Ça me convainc, franchement.
Non, c'est pour les auditeurs que je le dis. 6 élus, les Républicains, ont écrit une lettre au procureur de Paris.
Dont le président de la commission des lois du Sénat. C'est pas rien, quoi, je veux dire.
Du parquet national financier pour demander l'ouverture d'une enquête, précisément sur la base des révélations du livre Bienvenue Place Beauvau, on va quand même le citer, notamment sur ce cabinet noir présumé. Est-ce que vous avez information d'un retour de cette
initiative ? Je n'en ai aucune. Je dis simplement que si jamais le parquet ne se saisissait pas, après les élections présidentielles et législatives, nous demanderons qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur cette question.
Quand ce sera à nouveau possible. En ce moment, c'est vrai que ça n'est pas possible compte tenu de l'arrêt des travaux de l'Assemblée nationale. Je voudrais revenir alors sur tout à fait autre chose, François Fillon. Une image qui a frappé ceux qui l'ont vue, c'est votre confrontation avec les infirmières dans un reportage sur France 2. Alors, elles vous parlaient épuisement professionnel, vous leur avez répondu, dette publique pour justifier le passage de 35 à 39 heures dans la fonction publique. Ça a été perçu comme d'une grande froideur, comme d'un certain mépris. Est-ce que c'était le cas ?
D'abord, madame, je connais parfaitement les souffrances des infirmières, des personnels de santé. J'ai présidé pendant des années le conseil d'administration de mon hôpital, d'une maison de retraite. J'ai été président d'un département qui gérait des EHPAD. Et pendant les 3 ans où j'ai préparé mon projet, j'ai rencontré un très grand nombre de professionnels de santé. Naturellement, ça avait peu de choses à voir avec la petite mise en scène organisée par France 2, avec juste des responsables de la CGT. Bien sûr, non, il ne faut pas que je parle de ça.
Non, non, c'est pas ça. C'est que je voudrais qu'on parle du fond. Non, non, pas du tout. Mais je voudrais qu'on parle de la fonction publique et des 35 à 39 heures.
La télé-réalité, c'est très intéressant. La mise en scène, c'est très intéressant.
Le choix
des séquences, car dans cette confrontation, j'ai aussi expliqué au personnel qui était en face de moi que s'agissant du vieillissement de la population, il y avait un besoin supplémentaire. Et il y aura forcément un besoin supplémentaire de place, de personnel sur ces sujets-là. Mais je veux revenir à la question des 39 heures. Tout le monde reconnaît que les 35 heures ont désorganisé l'hôpital de façon grave. Parce que avec les 35 heures, on a demandé au personnel des hôpitaux et des maisons de retraite de faire en 35 heures ce qu'ils faisaient avant en 39 heures. Puis ensuite, on les a bloqués dans leur rémunération pendant quasiment 15 ans. Donc, ils n'ont aucune perspective de rémunération, d'augmentation de salaire. Ça, c'est la situation actuelle. Et c'est la situation que les autres candidats, et en particulier Monsieur Macron, proposent de maintenir. Puisque on a l'impression, au fond, que moi, je propose des choses très difficiles et qu'actuellement, c'est le paradis dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite. Ce que je dis, c'est que si vous voulez améliorer les conditions de travail, ces infirmières en particulier font beaucoup d'heures supplémentaires qui en général ne sont pas payées ou qui sont payées avec énormément de retard. Donc si vous voulez améliorer les conditions de travail dans un pays qui connaît par ailleurs les difficultés financières qui sont les nôtres, je dis qu'il faut mettre sur la table dans une négociation l'augmentation du temps de travail, l'augmentation du salaire, l'augmentation du temps de travail
sur une base annuelle, de cette négociation
et la mise en place de perspectives de carrière qui soient attractives pour les personnels du secteur public. Donc, dès l'élection présidentielle, on engagera cette discussion.
On attend le résultat de la négociation pour le passage effectif aux 39 heures.
J'ai dit que ce serait une négociation secteur par secteur, parce que le problème des infirmières n'est pas le même que celui...
Pas hôpital par hôpital.
Non, secteur par secteur. Je voudrais qu'on donne une marge de manœuvre aux hôpitaux et aux directeurs d'hôpitaux pour leur donner une autonomie, parce qu'il y a aussi des conditions qui sont très différentes d'un hôpital à l'autre.
Donc on peut imaginer un temps de travail différencié selon l'hôpital et le résultat des négociations.
On peut imaginer un temps de travail annuel, de travail annuel, je rappelle, qui puisse être différencié s'il y a un accord local et que cet accord est un accord gagnant-gagnant qui permet au personnel d'avoir...
Avec des majorations de salaire pour les infirmières, à partir de quel... c'est ça qui sera au cœur de la négociation.
Bien sûr.
C'est encore très flou. C'est vrai, ce passage de 35 à 39
heures.
Parce qu'une
négociation, madame, par définition, ça ne peut pas être fixé à l'avance. Voilà.
Donc vous donnez le temps de la négociation, 6 mois, un an et demi, et ensuite...
Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est la seule façon d'améliorer les choses. Voilà. Si on a 2200 milliards de dettes, on est face à un mur. Et je suis très choqué de voir que cette question de la dette n'est pas au cœur de la campagne présidentielle. Non seulement elle n'est pas au cœur, mais vous avez des candidats qui proposent pratiquement tous des augmentations de dépenses publiques, y compris Emmanuel Hollande, qui propose...
Qui propose
60 milliards d'économies, 50 milliards de dépenses nouvelles, mais qui vient de rajouter en l'espace de quelques jours 40 ou 45 milliards de dépenses, avec en particulier cette aberration d'un service militaire d'un mois. Donc, que cette question de la dette ne soit pas au cœur de la campagne présidentielle, c'est extrêmement choquant. Et ça montre l'irresponsabilité de notre système politique. Au fond, ne pas dire aux Français la vérité, c'est que on va vers une crise financière, on va vers des hausses de taux d'intérêt, on va vers la difficulté de trouver à l'avenir le financement de notre dette, c'est irresponsable.
Avant de revenir à Emmanuel Hollande, vous venez de trouver ce nouveau patronyme, on va en parler, mais je voudrais juste vous interroger sur un chiffre qui m'a frappé lundi, c'est une étude de l'Institut Jean Jaurès, seuls 8% des ouvriers voteraient pour vous, alors qu'il serait justement 17% pour Macron, 43% pour Marine Le Pen. Comment expliquez-vous que votre programme soit aussi impopulaire chez les Français les moins gâtés, chez les perdants de la mondialisation finalement?
Je crois que c'est pas mon programme qui est impopulaire, c'est le cri de colère d'une partie des Français qui sont les plus touchés par la crise, qui sont touchés par les délocalisations, qui ont le sentiment qu'il n'y a pas d'avenir pour leur secteur.
Et c'est un souci pour vous faire élire, d'avoir une adhésion si faible, la plus faible de tous les candidats.
La question qui est posée, c'est est-ce que les programmes de ceux pour lesquels ils votent pourraient améliorer leur vie? Est-ce que quelqu'un pense sincèrement que voter pour Mme Le Pen, qui va faire sortir la France de l'euro et qui va rajouter 150 milliards de dépenses supplémentaires dans un pays qui est déjà au bord de la faillite, est-ce que ça va améliorer la vie des ouvriers? Évidemment que non, ça va la dégrader.
Vous demandez des sacrifices, vous ne supprimez pas l'ISF, alors qu'Emmanuel Macron, je lui rends son patronyme cette fois, lui ne supprime pas l'ISF. Est-ce que symboliquement, vous apparaissez comme le candidat des riches
du fait que M. Macron n'a aucune conviction. M. Macron a défendu pendant des années la suppression de l'ISF. Il y a encore quelques mois, M. Macron voulait supprimer l'ISF.
Il le réforme sur tous les sujets.
C'est-à-dire qu'en fait, il ne fait rien. Il réforme un peu l'ISF, il réforme un peu les 35 heures. Et il continue la politique qui est celle d'aujourd'hui, qui donc ne donnera pas de résultat. Pourquoi est-ce que je veux supprimer l'ISF? Pour faire plaisir aux riches, madame.
Pierre Gattaz nous l'a redit hier matin.
C'est parce qu'il n'y a pas d'investissement en France et parce que justement vous parliez de Whirlpool tout à l'heure, vous parliez des entreprises françaises, elles sont en train de passer sous contrôle étranger de manière massive. Plus de la moitié de l'économie française en réalité aujourd'hui dépend de fonds de pension américains et d'investisseurs du Golfe. C'est votre responsabilité à tous de le dire et de dire aux Français qu'il y a quelque chose de dangereux à accepter que l'ensemble de l'économie française passe sous contrôle étranger parce qu'il n'y a plus d'investisseurs français. Et donc je demande simplement que les investisseurs français soient taxés comme les Allemands, les Anglais, comme les autres dans les autres pays européens. Voilà. Et ça, ce sont des décisions qui auront des conséquences sur l'investissement et donc sur l'emploi. Alors que les propositions d'Emmanuel Hollande permettront simplement de poursuivre la politique actuelle, donc de continuer à dégrader les conditions de vie des ouvriers.
Dans une interview à l'Obs aujourd'hui, Manuel Valls se dit prêt à travailler avec vous si vous êtes élu pour sauver la France. Même si François Fillon sortait vainqueur de ce combat, il faudrait aussi chercher à trouver des compromis avec la droite parlementaire. Voilà. Vous saisissez la main tendue de Manuel Valls?
Mais j'ai toujours entretenu un dialogue constructif avec Manuel Valls.
Vous pourriez gouverner avec Manuel Valls? Il vous fait des propositions.
Je pense que tous les républicains qui sont soucieux du redressement du pays, compte tenu de la crise qu'on traverse, cette crise qui est pas seulement économique et politique et sociale, au fond le climat même de l'élection présidentielle est une illustration ou un symbole de cette crise. Je pense que le pays est dans une situation très grave et tous ceux qui ont le courage de vouloir le redresser doivent pouvoir parler ensemble.
Vous pourriez travailler avec Emmanuel Macron?
On peut, surtout que pendant très longtemps, on avait les mêmes idées sur beaucoup de sujets, n'est-ce pas?
Et d'ailleurs, vous lui aviez... voilà. Et vous dites qu'aujourd'hui, c'est possible. Manuel Valls votera dès le premier tour pour Macron. Qui se ressemble, s'assemble. Alors effectivement, les amis de mes amis sont mes amis. Qui se ressemble, s'assemble, c'est Martine Aubry qui disait ça, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal.
Ce qui est certain, c'est que on voit de plus en plus Emmanuel Macron s'enfermer dans le Parti Socialiste, dans le gouvernement, et poursuivre la politique de François Hollande. Et au fond, c'est normal, c'est lui qui a inspiré cette politique, il en a été le ministre. Simplement, il a essayé de faire croire qu'il était différent. Et quand on regarde les choses, on s'aperçoit que la campagne d'Emmanuel Macron, c'est en fait les plus vieilles ficelles de la politique. Vous savez d'où vient le slogan En Marche d'Emmanuel Macron, n'est-ce pas? C'est le slogan de Jean Le Canuet aux élections présidentielles dans les années 60. Et en fait, la méthode qui consiste à vouloir faire plaisir à tous les électeurs, à dire un petit mot pour les les uns et un petit mot pour les autres. C'est la façon la plus ancienne et la plus vieille de faire de la politique.
Malgré tout, vous vous battez absolument, effectivement, pour être qualifié pour le deuxième tour. Mais si vous ne passez pas ce premier tour, François Fillon, et que Marine Le Pen est qualifiée, est-ce que vous appellerez à voter contre le Front National ?
Je serai au second tour, madame.
Dans cette hypothèse, les Français sont intéressés de savoir quelles sont vos valeurs, quel est votre positionnement.
Vous êtes intéressés, mais moi, je vous dis que je serai au second tour.
Est-ce que ce sera le nini de Nicolas Sarkozy
Au second tour, madame Martichoux.
Dernière question, elle émane d'un des Français réunis par la communauté, par Kantar Sofres, en réalité, qui réunit des Français. Et cette question émane de cette communauté. Si vous êtes battu, vous continuez ou vous arrêtez la politique?
Je serai au second tour de l'élection présidentielle, madame Martichoux.
Il y a au moins de la constance dans la réponse. Merci à vous. On aurait voulu parler de la Guyane, mais ce sera effectivement un sujet qu'on va aborder un peu plus tard.
Une simple précision, François Fillon, en remerciant Elisabeth Martichoux. Pour être présent au second tour, il faut participer à un certain nombre de débats. Vous savez qu'il y a ce fameux débat de France 2 le 20 avril. Jean-Luc Mélenchon, finalement, n'y va pas. Emmanuel Macron se tâte. Est-ce que vous serez présent au débat organisé par France 2 le 20 avril?
Si Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ne vont pas à ce débat, ça n'a aucun intérêt. Où il y a tous les candidats, où le débat n'a pas de sens.
On se retrouve dans quelques instants pour le journal de 8h. Vous continuez de réagir à cette actualité et vous pouvez interroger. Je vous le rappelle, vous qui nous écoutez, François Fillon, ce sera à partir de 8h15 et nous attendons vos réactions au 3210. Très bonne journée à tous.